Bienvenue dans le quatrième module de ce cours grâce auquel vous apprenez à développer un site web en PHP et à le déployer ensuite dans Azure, l'environnement cloud de Microsoft. Alors en effet, avec ce quatrième module, on va toujours en s'appuyant sur le site web que nous avons commencé au module précédent, tenter d'aller un peu plus loin avec PHP pour découvrir des notions plus avancées de PHP. Comme d'habitude, un coup d'œil sur le sommaire de notre module. Il y aura essentiellement que du développement. Donc, dans ce module, c'est promis, on va manger du code PHP. Et sur quatre axes essentiellement. Donc, l'idée, c'est d'abord d'améliorer la liste que nous avons entamée au module précédent, d'ajouter une page de détail et de faire fonctionner un filtre sur les films par type. Science-fiction, comédie, etc. Et nous terminerons par l'amélioration visuelle de la liste. Et enfin, pour terminer ce module, nous allons stocker nos sources sur un gestionnaire de sources et nous utiliserons GitHub qui est très utilisé. Alors allons-y, c'est parti pour ce quatrième module. La première chose que nous allons essayer de faire, c'est toujours à partir de WebMatrix. Donc je reprends le code exactement là où il en était dans le module précédent. Et ce que nous allons commencer par faire, c'est donc améliorer notre page de liste. Mais pas au niveau visuel pour le moment, plutôt au niveau du développement. Ce qu'on va faire, c'est créer ce qu'on appelle une fonction personnalisée. Alors jusque-là, nous avons toujours utilisé que des fonctions natives de PHP. Mais là, on va avoir besoin de créer une fonction personnalisée qui nous appartient, qu'on va créer nous-mêmes, dont l'objectif va être d'afficher le contenu d'une ligne de notre liste de films. Donc pour ça, on va créer à la suite de notre code PHP, en partie supérieure de notre fichier index.php, on va créer notre nouvelle fonction. Donc on va commencer par mettre un commentaire. On dit qu'on va faire une fonction ici qui est destinée à afficher un élément de la liste. Pour définir une nouvelle fonction personnalisée, il faut écrire le mot-clé PHP fonction et ensuite indiquer le nom de notre fonction avec des parenthèses. On sait que on va passer à cette fonction un paramètre et ce paramètre ce sera une ligne. Donc ici c'est un tableau. Une ligne de notre variable $data qui, je vous le rappelle, contient l'ensemble des données de nos films. Ensuite, on ajoute les accolades et dans cette fonction, ce qu'on va faire, c'est simplement afficher le li qui, pour l'instant, est affiché directement dans notre code HTML à cet endroit-là. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement, dans notre fonction personnalisée, indiquer qu'on va faire un écho d'une balise li suivie par concaténation du contenu de la variable row, mais pas de tout le contenu, mais uniquement du titre du film. Donc je vous rappelle que dans ce tableau, on a les différents éléments qui sont indexés à partir de 0 et que l'élément qui nous intéresse, c'est d'afficher ici le titre de notre film. Or, le titre, il est indexé sur le deuxième élément. Donc, comme le premier élément commence à 0, ici, entre les crochets, c'est 1 qu'il faut positionner. Et ensuite, donc, on rajoute toujours par concaténation la balise de fermeture, li et les points-virgules. Donc ce qu'il faut ensuite faire, c'est dans la boucle du code HTML, ici, Eh bien, non plus afficher l'ELI comme on le fait là, mais à la place, aller chercher la fonction personnalisée que nous venons de décrire, qui s'appelle donc show row, et en lui passant quoi? En lui passant la ligne courante contenue dans l'itération de la boucle. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller chercher $data, mais pour obtenir la ligne courante, il faut lui passer entre crochets le $i. On n'oublie pas les points-virgules et on va vérifier que notre site fonctionne toujours. Donc, apparemment, il n'y a pas de souci, hein. Là, on n'a fait que déporter dans notre fonction personnalisée ce qu'on faisait déjà dans le code HTML. Alors ensuite, nous allons créer une seconde fonction personnalisée, toujours à cet endroit-là, qui aura pour objectif d'afficher un drop-down ou un select des différentes catégories de films. Donc les catégories, c'est le type des films. Donc le type d'un film, ça peut être science-fiction, comédie, drame, etc. Et c'est tout cela qu'on va essayer d'afficher grâce à notre nouvelle fonction. Donc fonction, toujours un petit commentaire, ça fait jamais de mal, destinée à afficher un select des types de film. Voilà, donc toujours fonction comme ceci, et on va l'appeler show select types items. Voilà, on n'attend pas de paramètres, donc on met juste les parenthèses, puis les accolades. Alors, dans cette fonction PHP que nous sommes en train de créer, on va avoir besoin de faire appel aux données qui sont contenues dans $data. $data, je vous rappelle, est défini un petit peu plus haut dans le code PHP, ici. Simplement, ici, si on veut faire appel à l'intérieur de cette fonction à la variable $data, ça ne fonctionnera pas. La preuve, c'est que si je fais ici un var dump de $data, point virgule, que ensuite j'appelle quelque part dans mon code PHP, par exemple juste après notre H2 qui était ici. Donc si j'appelle notre fonction show select types items. Voilà, et que j'actualise ma page ici, on voit que ici ce qui m'est retourné, c'est un nul. Donc $data, dans le contexte de ma fonction personnalisée, n'existe pas. Ce qu'il va falloir que je fasse pour rendre $data accessible à l'intérieur de ma fonction PHP, ma fonction PHP personnalisée que je viens de créer, c'est utiliser le mot-clé global et ensuite $data. Ça va me permettre donc de rendre disponible la variable $data à l'intérieur de cette fonction. Si je réactualise à nouveau ma page, je vois bien que cette fois-ci, je retrouve parfaitement le contenu de ma variable $data. Alors, on va supprimer ceci et on va continuer la saisie de notre fonction personnaliser PHP. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser ici une nouvelle variable $types dans laquelle je vais qui va être un tableau dans laquelle on va stocker les différents types de films qu'on va rencontrer. Donc, on va faire à nouveau une boucle ici à l'intérieur de cette fonction sur $data, mais cette fois-ci pour changer un peu, c'est l'occasion d'apprendre un nouveau type de boucle, on va utiliser la boucle for each. Donc for each va itérer sur chacun des éléments de ma variable $data, donc que je passe en premier paramètre. Ensuite, je mets le mot-clé as et la variable qui va être créée à chaque passage dans cette boucle. Donc la variable $row ici, elle est présente à l'intérieur de cette boucle forEach pour chacune des itérations de la boucle forEach sur $data. Alors ce qu'on va faire, c'est ici s'assurer que dans le tableau $types, il n'y a pas déjà le type que je suis en train d'essayer de récupérer à l'intérieur de ma boucle. Pour cela, on va utiliser une condition, puis à l'intérieur de cette condition, une fonction inerrée avec, vous l'avez vu, devant un point d'exclamation. Ça va me permettre de m'assurer que dans le tableau que je vais passer en paramètre de cette fonction inerrée, il n'y a pas l'élément qui va également être passé en paramètre de cette fonction inerrée. Le premier paramètre à passer, c'est le type qu'on souhaite tester. Donc le type, c'est $row, et il est indexé, si je ne me trompe pas, on va vérifier dans film CSV, donc ça, c'est ce premier champ, c'est 0, 1, 2, 3. Le type est donc indexé sur 3. Donc on rajoute ici entre les crochets 3. Et ensuite, en deuxième paramètre, on passe le tableau $types dans lequel on veut faire cette vérification. Alors, voilà. Ensuite, on ajoute les accolades. Donc là, on met vraiment en place cette condition de façon à s'assurer que le type qu'on va ajouter n'est pas déjà présent dans notre tableau types, $types. Alors, s'il n'est pas présent, ben, il faut le rajouter, $types, on a déjà vu, et on ajoute $row 3. Voilà. Donc on va lister à l'intérieur de cette variable $types l'ensemble des types de chacun des films, de l'ensemble des films. Ensuite, on affiche une ligne en LI du type. Alors on va mettre un rôle dessus. Alors, comme on a déjà mis des doubles cotes ici, devant et derrière, pour les attributs à l'intérieur des balises, on va utiliser des simples cotes. Voilà. Type. On va rajouter derrière un A avec un rôle lui aussi, toujours avec des simples cotes. On va dire que c'est un menu item. Alors on fait tout ça pour avoir une mise en forme un peu sympa dans Bootstrap plus tard. Et on va terminer avec href, toujours entre simples cotes, qui contient un simple dièse pour le moment. Puis ensuite, on ferme la balise A, ouvrante. On va mettre derrière le type. Voilà. Et ensuite, on va fermer la balise A, puis la balise LI. Voilà. Donc en même temps que de stocker les différents types dans la variable de tableau $types, on va aussi afficher une liste des différents types de films. Alors il y a une chose qu'on a oubliée pour le moment, c'est de compléter la condition qu'il y a ici. Vérifier que un type n'est pas déjà présent dans le tableau $types, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi qu'on s'assure que le type qu'on cherche à ajouter dans notre tableau soit différent de la mention type qui existe ici dans la première ligne. Donc pour faire ça, il faut rajouter avec un double esperluette ici une condition supplémentaire. Donc pour que la condition if ici soit résolue, il faut que les deux conditions à l'intérieur de la parenthèse soient vérifiées. Donc la première, on vérifie qu'un type n'est pas déjà présent dans $types, et on vérifie également que la valeur du type que nous sommes en train de passer soit bien différente de la chaîne de texte type. Voilà. Donc là, on est pas mal. On peut vérifier que ça s'affiche bien. Alors, ça a l'air d'être le cas. Voilà, on a bien nos différents types de films qui apparaissent ici et ils apparaissent une seule fois. Simplement, la mise en forme ne me plaît pas énormément. J'aurais bien aimé avoir quelque chose avec un menu déroulant, un truc un peu plus sympathique. Donc pour ça, on va s'appuyer sur Bootstrap CSS, comme lors du module précédent, de façon à améliorer la présentation de cette zone-là. Alors il nous faut intégrer deux choses pour que ce qu'on va faire maintenant puisse fonctionner correctement, pour que l'apparence qu'on va donner à notre petit menu déroulant soit plus sympathique. Il faut intégrer d'une part un JavaScript sur lequel Bootstrap s'appuie, une librairie JavaScript qui s'appelle jQuery, hein, vous la connaissez sans doute. Et il faudra également qu'on intègre dans notre code HTML l'appel à un fichier JavaScript de Bootstrap. Alors on va commencer par récupérer jQuery dans sa version 2 et plus. Donc on va sur le site de jQuery, jQuery.com, et ensuite on clique en haut à gauche, ici, sur le lien de téléchargement. Alors attention à ne pas se tromper, ici il y a deux versions de jQuery, version 1 et version 2. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la version minifiée, compressée de jQuery pour la production. Donc on va récupérer en faisant peut-être autrement un clic droit et Save Target As. Alors pour l'instant, je mets ça sur mon bureau, ça me convient très bien. Voilà. Je ferme cette fenêtre. Et ce que je vais faire, c'est faire comme j'avais fait lors du module précédent, faire un copier. Donc CTRL-C de ce fichier jQuery pour aller venir l'ajouter à l'intérieur du répertoire JS que j'ai ici. Donc je clique dessus, je fais un clic droit. Et je fais coller, paste. Et donc on voit bien qu'ici, notre référence à la librairie jQuery s'est bien rajoutée. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est dans le code HTML, venir ajouter la référence à ces deux fichiers JavaScript. D'abord jQuery, puisque je vous le disais, jQuery est une dépendance pour Bootstrap. Donc, on va d'abord aller chercher jQuery script src égale js slash. Alors, j'ai pas envie de prendre trop la tête, donc je vais faire un copier-coller du nom du fichier jQuery. Voilà, et je vais rajouter ensuite la référence dans le répertoire JavaScript à bootstrap.min.js. Donc toujours de préférence les versions minifiées, ça permet de limiter les transactions entre le client et le serveur. Là, ça n'a pas beaucoup d'incidence parce qu'on est en local, mais quand vous êtes vraiment en production, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. Alors, on continue notre petit développement. Voilà, une fois qu'on a fait ça, si on retourne dans notre page web et qu'on réactualise, il se passe strictement rien, puisque vous l'avez sans doute compris maintenant, pour que Bootstrap puisse fonctionner et assurer une présentation correcte, il a souvent besoin qu'on habille nos éléments de conteneurs qui possèdent des classes CSS. Donc pour que notre menu déroulant ici apparaisse de façon plus jolie qu'une simple liste en ULLi, eh bien on va ajouter à l'endroit où on avait positionné notre fonction ici qui permet de remonter la liste des types de films, eh bien on va rajouter un ensemble de conteneurs autour de l'appel à cette fonction personnalisée. Alors, il y en a quelques-uns. Le premier, c'est div. C'est un div avec une classe forme groupe. Alors, ça va permettre à Bootstrap de ménager autour de notre menu déroulant un tout petit peu d'espace pour pas qu'il soit trop collé au H2 qui se situe dessus, ni trop collé à la liste des films qui se situe juste après. Ensuite, on va rajouter un autre div avec une classe drop-down. C'est ça qui va permettre de gérer l'affichage de la liste sous forme de menu déroulant. Ensuite, on va ici indiquer une nouvelle balise button avec elle aussi un certain nombre de classes. Donc d'abord btn, ensuite btn-default, ensuite drop down toggle. Alors ça va permettre de mettre en place en haut de notre liste un bouton qui va déclencher l'ouverture du menu déroulant. Donc le type c'est bien un bouton. On va l'identifier avec un drop down items ou types, peut-être types sera mieux. Et ensuite on va mettre un data tiret toggle. Alors ça c'est du HTML5 aussi. Hop, voilà, avec comme valeur égale drop down. Voilà, et on ferme. À l'intérieur de ce bouton, on va rajouter la mention qui doit apparaître sur le bouton. On va mettre type. Ensuite, on va ajouter un span qui va permettre de faire avec une classe caret ici, qui va permettre d'afficher une petite flèche vers le bas pour indiquer qu'il y a quelque chose à déployer à cet endroit-là. Ensuite, on va afficher la liste toujours en restant à l'intérieur du conteneur div classe dropdown. Et on va ajouter notre UL, lui aussi avec des classes. Donc ici drop down -menu. On va lui dire qu'il possède le rôle de menu. Et on va rajouter quelque chose là aussi dont Bootstrap a besoin. Aria labeled by. Et on va dire que c'est drop down, une référence à l'identifiant de notre menu. Drop down types. Voilà. Et c'est à l'intérieur de cette UL qu'on va venir afficher nos LI grâce à notre fonction personnalisée de tout à l'heure. Voilà, on va peut-être vérifier que tout cela fonctionne dans notre page. On a bien enregistré notre fichier index.php, on réactualise notre page, et là on a tout de suite quelque chose de plus sympathique qui s'ouvre, qui s'affiche, et en cliquant sur le bouton Types ici, je fais apparaître mon menu déroulant. Alors pour l'instant, ce menu n'est pas fonctionnel, on voit très bien que quand je clique, il se passe strictement rien au niveau de la page. On reviendra là-dessus un peu plus tard dans notre module. Alors on poursuit et on va commencer à réfléchir un petit peu sur la structure de notre projet. Là on voit que dans cette zone-là on commence à avoir pas mal de code PHP et ce qu'on aimerait finalement c'est séparer un peu plus le code fonctionnel, donc tout ce que j'ai sélectionné ici, le code fonctionnel PHP, le séparer davantage du code qui est chargé de représenter visuellement notre page, c'est-à-dire le code HTML5 que l'on trouve ici. Donc pour cela, nous allons créer dans notre arborescence, ce qu'on fait là c'est plutôt une bonne pratique, hein, de séparer le code fonctionnel de la vue du code HTML, c'est plutôt fortement suggéré. Voilà, on crée donc notre nouveau fichier fonction.php. On sait que dans ce fichier là on va avoir que du code PHP, c'est justement l'objectif. Donc on vire tout le code HTML qui s'y trouvait encore, on revient sur notre fichier index.php et puis on va faire simplement un gros copier-coller gros coupé-collé de tout ce qu'on a là. On va le mettre ici dans le fichier fonction .php que l'on vient de créer. Voilà qui est fait. Alors, pour le coup, si je retourne ici dans ma page, ah, j'ai oublié d'enregistrer. Voilà. Si je retourne dans ma page, eh bien, je n'ai plus accès au contenu. Pourquoi? Parce que dans la page sur laquelle je suis actuellement, c'est-à-dire la page index.php, il se passe strictement plus rien. Je charge même plus le fichier fin.csv. Malgré tout, notre page continue de se comporter correctement grâce à ce qu'on a fait au module précédent, mais il faut qu'on retrouve le contenu de notre fichier CSV et la liste de nos films dans cette page. Alors pourquoi ça marche plus? Parce que eh bien ça marche plus parce qu'on n'a plus accès à tout ce qui s'exécute maintenant dans le fichier fonction.php. Pour que ça refonctionne, il faut simplement ici, dans notre fichier index.php, faire une inclusion en appelant la fonction include du fichier fonction.php. Voilà. Du coup, si je reviens là et que je réactualise, je retrouve exactement le même fonctionnement que précédemment. Donc, encore une fois, tout ce qu'on vient de faire, c'est simplement de déporter l'ensemble de ce qui s'exécutait avant dans le fichier index.php dans un autre fichier, fonction.php. Voilà donc pour la partie séparation du code fonctionnel de la vue. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est commencer à faire ce qu'on appelle un tout petit peu de code orienté objet. On va pas aller très très loin dans la programmation orientée objet en PHP, mais on va quand même voir comment créer une classe. Alors une classe, ça va nous permettre de stocker en son sein deux choses. La première, ce sont des propriétés, et la seconde, ce sont des méthodes. Et après, on pourra ce qu'on appelle instancier ces classes pour en faire des objets et les manipuler au sein de notre code PHP. Alors, on va commencer par créer une première classe. Donc, pour ça, comme on est un bon développeur, on va mettre un commentaire qui va dire ce que cette classe va faire. Donc, on va faire une classe qui est destinée à contenir les propriétés d'un film. On va utiliser la jolie mise en forme de commentaires multiligne. Voilà, hop, et on s'arrête comme ceci. Ensuite, pour créer une classe, on fait appel au mot-clé classe, puis on met directement le nom de cette classe à laquelle on rajoute des accolades. Alors là, il faut qu'on se tape à marquer toutes les propriétés de notre film. Alors ces propriétés, on les précède de la mention publique pour les rendre accessibles de l'extérieur. Donc quand on va instancier cette classe film pour en faire un objet, on pourra, à partir de l'objet, récupérer directement les propriétés que nous sommes en train de saisir maintenant. Donc là, on les rajoute toutes. On a le titre, on a l'image, on a le type. Voilà. Un type au singulier. Ensuite, on a l'année. On a le pays. On a le réalisateur. On a la durée du film. Et enfin, on a le résumé. Voilà. Ensuite, on va rajouter une méthode à l'intérieur de cette classe film que nous sommes en train de réaliser ensemble. Cette méthode, elle va porter un nom un peu particulier. Elle va s'appeler -bas-bas construct. Ça s'appelle, et cette méthode s'appelle le constructeur de la classe. Cette méthode, elle va être appelée systématiquement à chaque instanciation de la classe. Donc chaque fois que je voudrais faire de cette classe un objet, je vais obligatoirement passer par toute l'exécution qui est contenue à l'intérieur de cette fonction de construction. Donc une fonction, comme les propriétés, doit être précédée de, en particulier la fonction de construction, le constructeur doit être précédé de la propriété publique, et ensuite, comme c'est une méthode, on indique ici le mot-clé fonction, et comme c'est le constructeur, on lui donne ce nom particulier. Voilà, et à ce constructeur, on va passer à l'instanciation un paramètre, c'est celui de la rangée de données du film. Et ce qu'on va faire, c'est que on va appliquer à l'ensemble des propriétés de notre objet film, à chaque instanciation, on va appliquer à partir des données contenues dans $Row les différentes valeurs aux différentes propriétés. Donc là, par exemple, on va récupérer l'ID à partir de l'index 0 de $Row. C'est toujours, je vous le rappelle, un tableau. Alors $10 ici fait référence à l'objet lui-même. Voilà. Donc $Row 1. Alors pour gagner un peu de temps, je sais que c'est une mauvaise pratique, mais je vais le faire quand même. On va faire du copier-coller. Voilà. Hop, hop, hop. Je pense que c'est bon. On va dire que là, on modifie les index du tableau. Je pense qu'on a besoin de 8. Voilà, on enlève le dernier. Et ensuite, on n'oublie pas de changer le nom des propriétés. Donc là, c'est image, type, l'année, le pays, le réalisateur, la durée et le résumé. Voilà. Alors ici, on a une petite coloration syntaxique sur abstract, parce que abstract est aussi un mot-clé qu'on utilise d'ailleurs en programmation orientée objet. Mais bon, là, c'est pas gênant. Voilà donc pour cette classe. Alors ce qu'on va faire, c'est maintenant revenir sur notre fonction personnalisée qui affiche les rangées de la liste de nos films, et on va modifier cette fonction pour faire appel à notre classe, à la classe que nous venons de créer, en créant pour chacune des lignes une instance de cette classe film pour en faire un objet $film. Voilà, pour instancier, on fait appel au mot-clé new film, et ensuite les parenthèses, on a vu que à chaque instanciation de cette classe film, on allait passer par le constructeur qui est défini ici, et ce constructeur attend un paramètre, c'est le paramètre row ici. Alors on va reprendre simplement row qui est passé là, on le refile directement au constructeur de l'instanciation de notre classe film. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est à dire, bah tiens, on va afficher notre film à l'intérieur de cette liste de LI. Alors, si on veut vérifier les changements qu'on a fait, on peut aller dans notre liste et faire une petite actualisation, et on voit que là, apparemment, il y a un souci, puisque absolument plus rien ne s'affiche dans notre liste de films. Alors pourquoi? Parce que ici, qu'est-ce qu'on a essayé de faire finalement? On a essayé de faire un écho de la chaîne de texte LI ouvrant des fermentes, mais on a aussi essayé de faire un écho finalement de l'objet film. Or par défaut, on ne peut pas vraiment afficher comme ça une instance d'objet. Alors ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on rajoute dans notre classe film une fonction qu'on appelle, qui fait partie de ce qu'on appelle les fonctions magiques en PHP. Et toutes les fonctions magiques, comme la fonction de construction qu'on a faite tout à l'heure, elles commencent par tirer bas, tirer bas. La fonction magique qu'on va implémenter maintenant dans notre classe, c'est la fonction toString, qui va permettre de dire à la classe comment elle doit réagir lorsqu'un de ses objets cherche à être affiché. Donc il suffit de retourner dans cette fonction magique, dans cette méthode magique, ce qu'on doit afficher quand on cherche à faire un écho de l'instance de cette classe, d'une instance de cette classe. Alors évidemment, on la laisse publique, cette fonction, et on doit l'appeler obligatoirement comme ceci. Elle n'attend pas de paramètres. Et donc là, on va simplement faire un return. Donc c'est ce qui va être renvoyé à l'affichage lorsque je vais chercher à afficher l'instance, une instance de cette classe. Qu'est-ce que je vais renvoyer? Je vais renvoyer la propriété title. Et puis pourquoi pas, je vais concaténer derrière, avec une virgule comme séparation, également le type. Ça nous sera utile un peu plus tard. Donc là, a priori, si on actualise notre page, eh bien, on va constater que tout est revenu dans l'ordre et je vois bien que je passe maintenant bien par la méthode magique toString de ma classe, puisque j'ai non seulement le titre du film, mais aussi derrière le type comme on l'a indiqué dans notre méthode magique toString. Alors, on poursuit avec la création de notre page de détail. Donc pareil, new file, et on va l'appeler très original, de façon très originale, détail.php. Voilà, elle apparaît maintenant ici dans notre projet. Et comme à son habitude, ici, eh bien notre ami WebMatrix nous a créé à la fois les balises d'ouverture de code PHP et un petit peu de code HTML. En tout cas, le minimum pour commencer. Alors, cette page de détail, elle existe, mais il faudrait qu'on ait un moyen d'y accéder à partir de notre liste. Pour cela, il faut qu'on modifie une fois de plus notre fonction qui affiche la ligne, les différentes lignes. Donc cette fonction-là, showRow. Il faut qu'on ajoute à l'intérieur des LI, ici, des balises A, href. Pour l'instant, on met rien. Voilà, si on actualise notre page, ça nous permet tout de suite d'avoir sur chacun des liens la possibilité de cliquer et d'accéder dans quelques instants à quelque chose. Là pour l'instant, on n'a rien précisé comme valeur pour l'attribut href de notre balise A, donc il se passera strictement rien. Ce qu'il faut, c'est qu'on aille vers la page de détail. Donc on va indiquer ici détail.php, mais aussi il faut que quand on arrive dans la page de détail, on puisse savoir à quel film on a affaire et quel est le film qu'on va devoir afficher. Donc pour ça, on va rajouter un point d'interrogation derrière détail.php et la mention film avec un égal derrière. Et derrière ça, on va aller ajouter en concaténation $film-id. Voilà. Une petite erreur ici, la simple cote doit être derrière. Voilà. On est bon là. Donc maintenant, si je retourne dans ma liste ici, que je réactualise au survol de mes liens ici. Si on regarde en bas du navigateur, vous avez peut-être un lien qui apparaît au survol. Et le problème, c'est que je ne pourrais pas vous le montrer. Donc, mais ces liens ressemblent à donc détail.php, point d'interrogation, film égale film en majuscule 0001 qui correspond à l'identifiant du premier film. Donc on a rajouté à l'URL qui pointe vers la page de détail un paramètre supplémentaire et ce paramètre correspond à l'identifiant du film vers lequel on va aller. Alors dans la page de détail que nous avons créée tout à l'heure, on va aussi faire appel au fichier fonction.php. Donc on fait comme pour la page index, on fait une inclusion de ce fichier. Voilà qui est fait. Ensuite, on va retourner dans fonction PHP pour créer une nouvelle classe. Donc on continue un petit peu dans le développement orienté objet et on va faire une classe ici qui est en charge de trouver un film parmi au sein de $data à partir de l'identifiant de ce film. Donc on va créer cette nouvelle classe comme tout à l'heure, on va l'appeler Finder. Je vais zoomer. Voilà, on va l'appeler Finder. Et dans cette classe, on va rajouter cette fois une propriété qui va être privée. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas accessible par les instances de cette classe. Habituellement, par convention, toutes les propriétés privées, on les nomme $-bas. Quelque chose, ça permet d'identifier rapidement les propriétés qui sont privées. Et dans cette variable, dans cette propriété, pardon, on va avoir au final le même contenu qu'on a dans la variable $data qui, je vous le rappelle, contient la liste sous forme de tableau de l'ensemble de nos données des films. Ensuite, on va rajouter notre fonction de construction. Voilà. Et on va passer à cette fonction de construction, on devra passer une variable qui sera la variable de $data qui contient encore une fois les données de nos films. Et une fois qu'on l'aura reçu, eh bien on va l'envoyer dans notre propriété privée comme ceci. Voilà. Et on va rajouter une fonction, une méthode, pardon, find, qui à partir de l'identifiant d'un film va nous permettre de retrouver au sein de la propriété data ici le film qui nous intéresse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler une boucle for each qui va parcourir l'ensemble des données contenues dans la propriété data et qui va générer à chaque itération une variable locale $row. Et on va vérifier que $row à l'index 0, donc qui correspond, si on veut le vérifier, on peut le faire très rapidement ici, à l'identifiant des films, donc c'est tout ça. Si $row est égal à $ID, donc c'est l'identifiant qu'on recherche du film, et bien à ce moment-là, je retourne une nouvelle instance de la classe film à laquelle je passe $row. Si je n'ai rien trouvé, parce que je peux appeler un identifiant qui n'existe pas, et bien à ce moment-là, je retourne quelque chose, une constante nulle, pour indiquer que je n'ai rien trouvé. Alors on va commenter un petit peu, on va dire ici que c'est une méthode, puisqu'on est dans le cadre d'une classe destinée à trouver un film à partir de son identifiant. Voilà. On retourne dans notre fichier detail.php. Pourquoi? Parce que au sein de ce fichier, il va falloir qu'on trouve une solution pour récupérer à partir de l'URL l'identifiant du film qu'on va devoir ensuite passer à l'instance de notre Finder. Et c'est lui qui va me retourner le film que je vais devoir afficher ensuite dans ma page. Alors on va essayer de faire tout ça. On va mettre un petit commentaire pour toujours s'y retrouver. Récupère le paramètre de l'identifiant à partir d'identifiant plutôt passé dans l'URL de la page. Alors pour faire ça, il faut qu'on appelle un tableau global qui est retourné par le serveur. Et ce tableau global, c'est lui qui va entre autres contenir l'ensemble des paramètres et de leurs valeurs qui sont passés à l'URL lorsqu'on appelle la page detail.php. Donc ça va nous permettre très simplement de retourner, de retrouver notre ID. Donc on fait un $-bas get, voilà le fameux tableau global, et on va lui demander de récupérer la clé film qui est passée dans l'URL. Voilà. Ensuite, on va, à partir d'une instance de la classe Finder, ajouter une instance ici de la classe Finder, appeler la méthode find, et ensuite on verra si on a bien les bonnes données qui sont retrouvées. Alors, trouver le bon film. Donc, on va faire un Finder, un $Finder, qui correspond à l'instance de la classe Finder. À cette classe Finder, on n'oublie pas de passer la variable $data. Alors, variable $data, on ne la voit pas ici dans notre code PHP, mais elle existe bien. Elle existe dans le fichier fonction.php qu'on a inclus un peu plus haut dans notre fichier détail.php. Ici. Voilà. Donc, on a le droit de l'appeler sans aucun souci. Sur l'instance de cette classe Finder, on va appeler la méthode find en lui passant l'identifiant. Et ça va me retourner une instance de la classe film. Pour vérifier qu'on a bien quelque chose dans notre objet film, eh bien, on va faire un petit var dump. Ensuite, on réactualise ici notre liste. Et on va cliquer par exemple sur cet élément-là. Et on voit que visiblement, il y a bien quelque chose qui nous est retourné. Là aussi, si on veut le voir mieux, il vaut mieux accéder à la source de la page. On voit bien qu'on a un objet qui est une instance de film et qui contient toutes les données dont je pourrais avoir besoin pour un affichage dans ma page de détail. On va supprimer ceci. Et puis, maintenant, l'idée, c'est de modifier un peu le code HTML de notre page de détail pour afficher le contenu des informations du film que nous avons récupéré. Alors, pour assurer une présentation cohérente entre la page de liste, donc l'index.php, et la page de détail, on va également intégrer l'ensemble des fichiers du Bootstrap qu'on a ici. Donc, on va dans la page d'index, et puis on va faire un copier-coller de ceci pour le rajouter au même endroit ici. Voilà. Qui est fait. Ensuite, on va réintégrer également la barre de navigation qu'on a dans notre page d'index. Donc, juste après la balise body, on récupère l'ensemble du contenu entre les deux balises d'ouverture et de fermeture nav. On le colle à l'identique ici. Et ce qu'on va faire, c'est que comme on n'est plus sur la page qui liste les films, on va enlever ici l'attribut classe active. Ensuite, on va ajouter dans la balise body, toujours après la navigation, également la classe, le container, donc le div classé container. Et on va, dans la balise H1 qu'on positionne à l'intérieur de ce conteneur, afficher, on fait un écho du titre du film. Donc, pour appeler la propriété title de l'instance de l'objet $film, on utilise cette notation tiré plus grand que, donc on utilise une flèche pour aller chercher la propriété qui est publique, donc on y a accès sans souci de notre objet film. On va également ajouter ce titre dans les balises titres qu'on a ici. Dans l'entête de notre page HTML, simplement peut-être pour faire un peu plus joli, pour retrouver une cohérence avec la page précédente, on va rajouter en concaténation ceci devant. Voilà. Alors, ce qui serait sympa, là, on peut déjà peut-être regarder ce que ça donne. Voilà, pour l'instant, on a bien dans la partie supérieure, dans l'onglet, le titre du film et on le retrouve également ici. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on ait peut-être au moins une image et puis quelques informations concernant le titre, le film en dessous. Donc, on va continuer à écrire du code HTML et PHP dans cette zone-là. Mais pour qu'on puisse afficher les images, il faut qu'on ajoute l'ensemble des images de nos films à l'intérieur de notre projet. Pour ça, nous allons créer un nouveau répertoire d'images dans notre projet. On va aller ensuite chercher ces images. Donc elles vous seront fournies en pièces jointes de cette vidéo, bien entendu. Et on va aller les trouver à cet endroit-là pour ma part. Vous, ce sera plus simple. Voilà. Je vais les classer par type. Voilà, toutes les images sont ici. Je les copie et je vais les coller à l'intérieur de mon répertoire images. Voilà qui est fait. Donc, on va rajouter juste après la balise H1 à cet endroit-là une balise IMG. Alors, on va la positionner à l'intérieur d'un conteneur. D'un conteneur qui va porter une classe PullLeft qui va permettre à Bootstrap de dire que ce conteneur-là va être toujours calé à gauche du conteneur principal. Donc, voilà. Ça nous garantit que notre image sera toujours alignée sur la gauche. Et là, on va aller chercher dans le répertoire images notre image, le nom de notre image. Donc toujours en allant, il faut faire un écho, sinon il se passera rien. Voilà, et on va chercher donc la propriété image de notre objet film. Alors on va rajouter des classes également pour que Bootstrap puisse assurer une petite mise en forme, une classe IMG Thumbnail. Voilà, et on ferme la balise comme ceci. Voilà, je pense que tout y est. On va actualiser à nouveau notre page et vérifier que l'image s'affiche bien. C'est bien le cas. On voit que Bootstrap a fait son boulot. Il a rajouté une jolie petite bordure autour. Ça, c'est grâce à la classe ImgThumbnail que cette mise en forme est possible. Alors, il ne manque plus qu'à rajouter l'ensemble des informations concernant le film. Et ça, on va le faire toujours dans un conteneur en utilisant une liste de type DL. Alors, comme classe, on va rajouter ici également un pull left pour garantir que tout ça reste parfaitement aligné sur la gauche et on va rajouter une petite marge supérieure ici de 10 pixels. Voilà. Ensuite, on commence par écrire notre liste et à l'intérieur de la liste, on va écrire les titres. Donc, on va avoir le type et puis la définition correspondante qui va contenir le code PHP qui va nous permettre d'afficher le type du film. Voilà. Alors, pareil, mauvaise pratique, mais pour gagner un petit peu de temps quand même, on va faire un peu de copier-coller. Voilà, on va remettre le code en forme, CTRL-KD, je vous le rappelle, dans WebMatrix. Et puis ici, on va modifier les titres. Donc là, on va mettre année. Ça veut dire que là, il faut aller chercher la propriété year. Et on va rajouter ici le pays dans lequel ça a été produit. Donc ici, on va chercher la propriété country. Et on va également indiquer le réalisateur du film. Donc là, il faut aller chercher la propriété director. Et on va aller chercher également afficher la durée du film. Là, c'est la propriété length. Et enfin, nous allons afficher le résumé de ce film en allant chercher la propriété abstracte. Donc le reste, c'était en trop, on l'enlève. Très bien, on va regarder ce que ça donne. Voilà, ça me semble pas mal du tout. On a nos informations qui s'affichent. Notre page de détail est pour ainsi dire quasiment terminée. Il nous manque peut-être une chose qui pourrait faciliter la navigation. Plutôt que de devoir systématiquement recliquer sur le bouton ici film dans la navigation, j'aimerais avoir un petit bouton en bas à droite qui me permettrait de faire un retour à la liste des films. Donc on va rajouter ça dans cette page de détail. Juste après le conteneur de la liste, à cet endroit-là, on va rajouter à nouveau div class. Cette fois, on voudrait qu'il soit à droite. Donc, on a dit comme classe pull right. Et dans ce conteneur, on rajoute un href vers la racine de notre site web, donc en gros vers index.php, c'est-à-dire notre liste de films. On rajoute les classes qui vont permettre à notre ami Bootstrap d'assurer toute la mise en forme. Voilà, et on va dire qu'il est actif pour avoir une jolie couleur. On va dire que c'est un bouton. Voilà. Et on va mettre à l'intérieur retour à la liste. Et voilà. On actualise après avoir enregistré et on voit que notre bouton s'affiche. En cliquant dessus, je reviens à ma liste. Si je vais là, je visualise le film sur lequel j'ai cliqué. Donc tout ça fonctionne très bien. On récupère parfaitement l'identifiant à partir de notre URL. On est capable de récupérer le film dans les données qui sont mises à disposition. Donc c'est pas mal. Ce qui nous reste à faire pour être complètement exhaustif, eh bien, c'est de faire fonctionner drop-down, ce menu déroulant, pour que quand je clique, eh bien, je vois effectivement que les films de type concert, ou de type drame, ou de type documentaire. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. On va, toujours dans le fichier fonction PHP, venir modifier une fonction qu'on a déjà créée tout à l'heure, qui est cette fonction-là, show select types items. C'est celle qui permet d'afficher les différents éléments dans la liste des types de films. Donc, il faut qu'on rajoute dans cette liste, au niveau des li, un lien ici. Donc, à la place du href dièse, eh bien, ce qu'on voudrait, c'est aller dans la page d'index, donc avec un slash, mais en passant comme tout à l'heure, on pourrait faire index. À la place, hein, on pourrait faire index.php, point d'interrogation, passer derrière le type, en allant chercher ici la concaténation type. Donc c'est 0,3, c'est ce qu'on a ici et ici également. C'est ça le type qui est courant, qui doit être affiché. On le retrouve d'ailleurs affiché là derrière. On pourrait faire ça, mais on peut très bien se contenter de mettre un slash. Ça revient au même que de pointer sur la racine de notre site web et donc de pointer sur index.php. Donc faisons cela. On va tester dans notre navigateur. Alors au survol, vous verrez au pied de votre navigateur, au survol les différents liens ici de notre menu déroulant, et bien vous verrez dans le navigateur que derrière le type, on a bien la mention correspondante du type sur lequel on se trouve. Donc là j'ai type égale science-fiction par exemple, etc. Alors on risque d'avoir un problème sur le type comédie dramatique. Pourquoi ? Parce que dans ce type là, j'ai une accentuation. Donc il faudrait qu'on trouve une solution pour éviter de passer dans l'URL un caractère accentué. Ça peut poser des problèmes. Donc pour éviter ça, on va faire appel à une fonction PHP qui va permettre d'encoder tout ce qui doit être passé dans une URL. Donc ici, on va devant $row indexé sur 3, appeler la fonction URLEncode qui va permettre de convertir tous les caractères accentués de manière à ce qu'ils puissent être correctement traités par l'URL et par les navigateurs. Donc si on enregistre et qu'on revient, si vous voulez vérifier vous de votre côté, vous pouvez faire une actualisation et sur les types, aller directement sur Comédie Dramatique et vous allez voir que la valeur qui est passée derrière type, elle a changé, elle est encodée. On n'a plus de caractère accentué. Ensuite, il faut qu'on ajoute dans notre classe Finder qu'on a créée tout à l'heure une fonction supplémentaire. Et cette méthode va nous permettre de trouver une méthode qui permet de trouver un ensemble de films en fonction d'un type. On va l'appeler, elle est publique bien sûr, il faut qu'on y accède de l'extérieur, à partir des instances de cette classe, findByType. Elle va attendre évidemment un paramètre. Ce paramètre, ça va être un type. Donc, c'est ça qu'on va récupérer de notre URL tout à l'heure. Et à l'intérieur de cette nouvelle méthode, on va rajouter ici une nouvelle variable de type tableau, qui va contenir à terme l'ensemble des films qu'on aura trouvés. Et il faut qu'on s'assure que le type n'est pas vide. Pourquoi? Parce que quand on va arriver la première fois sur la page et qu'on va appeler dans notre index.php, la page qui liste nos films, eh bien le type va être vide. Et il ne faut pas qu'on se retrouve avec rien dans la page. Donc on va avoir ici un test. Un premier test qui va vérifier que le type est non vide, et c'est là qu'on va aller chercher les films qui correspondent à ce type. Mais on va avoir également ici un else qui va nous permettre de remonter l'ensemble des films quand le type est vide. Alors, on va d'abord commencer par traiter grâce à une boucle for each le cas où le type est renseigné. Donc là, c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. On parcourt notre propriété data qui contient toutes les données de nos films. À chaque itération, on génère une variable $row qui contient les données d'un film. On vérifie que le type du film est bien égal au type qui est passé en paramètre de notre méthode. Si c'est le cas, alors, je l'ajoute à notre tableau found et j'appelle une nouvelle instance de la classe film pour en faire un objet à laquelle je passe les données du film. Ensuite, il faut qu'on traite le cas où le type est vide. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On a le droit de mettre un commentaire ici pour se le rappeler. On renvoie tous les films quand le type est non renseigné. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire là. Et on va refaire une boucle for each qui va parcourir l'ensemble des données des films, toujours en générant une variable à chaque itération qui contient les données de chaque film. On va rajouter ici systématiquement les données du film, toujours en faisant appel à une instance de la classe film, et en lui passant au constructeur les données du film. Alors il faut quand même qu'on s'assure d'une chose, c'est qu'on n'envoie pas dans la liste de tous les films la première ligne qui contient, je vous le rappelle, les titres de colonne. Donc pour ça, on va faire une simple condition, $10. Non, il faut qu'on vérifie si $row, par exemple, on va se baser sur, sur le type. On va prendre l'index 1 et différent de type. À ce moment-là, on peut ajouter les données dans le tableau $found. Il ne nous reste plus qu'à renvoyer le contenu du tableau $found. Il faut qu'on retourne dans notre index PHP, donc la page qui liste nos films, et que dans la partie du code PHP ici, un peu comme tout à l'heure on a récupéré l'identifiant du film dans la page de détail, ici il faut qu'on récupère le type du film, des films qu'on cherche à afficher. Pour ça, on va faire la même chose, $type, on va aller chercher le tableau des paramètres passés à l'URL et retournés par le serveur, et là on va retrouver la valeur du paramètre type. Alors souvenez-vous que ce paramètre là il a été encodé. Pour retrouver la bonne valeur du $type, il faut qu'on décode. Donc là on va faire appel à un URL décode, sinon on n'aura pas la bonne valeur. Ensuite, il nous faut faire appel, bon, on pourrait commenter, hein, récupère le type des films. Et là, il faut trouver les films correspondants au type. Et pour ça, on va faire appel toujours à notre fameux Finder en faisant une nouvelle instance. Et à cette instance, on se souvient qu'il faut passer la variable des données. Et sur ce Finder, alors il va nous retourner l'ensemble des films trouvés. Sur ce Finder, on va aller chercher Find by Type que nous venons de créer, d'écrire en lui passant la valeur de la variable $type. Ensuite, il nous reste à modifier le code PHP dans la partie HTML. C'est ici que ça se passe, c'est au niveau de l'affichage de notre liste avec cette fonction showRow. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on remplace $data ici par $found, puisque maintenant tout ce qu'on cherche à remonter comme film est contenu dans cette variable. Donc $found ici, on le remplace aux deux endroits. Et comme c'est maintenant la classe, grâce à la méthode findByType, qu'on remonte le nombre de films et uniquement les films à trouver, eh bien on n'a plus besoin de cette condition qui nous permettait d'éviter l'affichage de la ligne qui contient les titres de colonnes. Donc on supprime cette condition ici et ici. Et on va aller également modifier la fonction showRow qu'on trouve dans notre fonction PHP, fichier fonction PHP. Voilà, il est un peu plus haut. Voilà, c'est ici. Pourquoi? Parce que maintenant, ce qui est passé là, ce n'est plus une ligne en provenance de notre variable $data, mais c'est une instance du film directement. Donc on remplace, on n'a plus besoin de cette ligne là, puisque c'est déjà une instance qu'on récupère ici. Voilà, et on n'a rien d'autre à faire que cela. On va afficher notre page des listes, la réactualiser, et en allant chercher les types ici, voilà, on a bien nos différentes listes de films en fonction du type sélectionné qui s'affiche. Voilà, donc pour cette répartition des films par type. Dernière étape de notre module, en termes de développement en tout cas, c'est l'amélioration de la présentation de notre liste. Parce que là, on ne peut pas dire que ce soit fameux. On va essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus sympathique. On va essayer de présenter cette liste sous forme de tableau. Et on va en profiter pour améliorer un petit peu la partie en tête de notre liste de tableaux. Alors, on retourne dans l'index.php et autour du titre principal, H1 ici, et du paragraphe, on va rajouter un div supplémentaire avec une classe qui porte un nom un peu spécial, mais qui va permettre d'assurer très rapidement une mise en page sympathique. Et on met le contenu de ce qu'on avait en H1 et P à l'intérieur de cette nouvelle classe. Si on revient sur notre page en réactualisant, on a donc une mise en forme d'en-tête plus sympathique avec un petit fond grisé, des bords arrondis, un titre un peu plus fort, de même que notre phrase du module précédent. Ensuite, on a dit qu'on avait modifié cette zone-là en la transformant en tableau. Donc, on va simplement dans notre code au niveau du UL et on va supprimer le UL ici, pardon, ici, pour le remplacer par un table. Donc, table ouvrant et fermant. Et ensuite, il faut qu'on retourne dans notre fonction showRow, toujours dans le fichier fonction, de façon à s'assurer que on n'affiche plus du LI mais des rangées de tableaux. Donc ici on va mettre un TR, ici un TD. Derrière on va rajouter un TD fermant, puis un TR, et puis supprimer le LI fermant. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on rajoute dans notre rangée de tableaux peut-être une information supplémentaire. Comme par exemple le type. Alors pour ça, on va plus pouvoir utiliser l'affichage en passant par la fonction, la méthode magique toString de notre instance film. Donc à la place, on va faire appel directement ici à la propriété title et on va rajouter ici dans un TD l'appel à du code. Du code PHP. Voilà. Hop. Donc on fait de la simple concaténation et on va aller chercher donc $film et là on voudrait afficher le type. Voilà qui est fait. Si on retourne dans notre page et qu'on actualise. Voilà, on a bien un tableau, hein. Alors si vous ne croyez pas avec ce genre d'outils, on peut le vérifier, on est bien dans un tableau. Voilà, on a des TR, des TD, etc. Simplement, la mise en forme n'est pas terrible. Pourquoi? Parce qu'on a omis de rajouter dans le code HTML dans lequel nous étions ici, au niveau de Table, une classe qui va permettre à Bootstrap de mettre en forme un petit peu plus joliment ce tableau. Voilà, donc là on a tout de suite quelque chose de plus sympathique. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on ait une alternance de couleurs entre les rangées. Pour ça, on peut rajouter une autre classe qui s'appelle Table Striped. Pardon pour mon accent. Voilà, et donc on a une alternance de couleurs entre les différentes rangées de nos films. On en a terminé avec le développement de notre site web. Ce que je vous propose maintenant, c'est pour terminer de stocker l'ensemble de notre code source sur GitHub. Ce sera utile pour les modules qui vont suivre. Alors pour faire ça à partir de WebMetrics, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans l'onglet ici Source Control. Et comme on veut initialiser un repository Git, on va cliquer sur ce bouton-là. On fait un Git init. Ça a pour effet immédiat de venir m'ajouter ici des plus devant chacun des fichiers qui vont être rajoutés sur mon repository Git. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est commencer par faire un commit. Donc là, on reste sur le repository local. Il faut impérativement ajouter un commentaire ici. Donc on met ça en anglais si on veut, init project, et on valide. Ici, on voit que l'ensemble de mes fichiers ont bien été enregistrés, commités sur mon repository local, mon git local. Mais ce que je voudrais, moi, c'est avec vous, le pousser, faire un push de l'ensemble de ces informations sur un GitHub. Donc pour ça, il faut se créer un compte sur GitHub. Donc ça, je vous le laisserai faire. On va aller donc sur github.com. Donc moi, je suis déjà connecté, on le voit ici, avec mon compte Adenova. Et ce que nous allons faire, c'est vérifier qu'on a un repository qui pourrait nous intéresser. Alors ici, j'ai un repository Hello World. Ça ne me plaît pas trop, je vais donc créer un repository exprès pour mon projet en cliquant ici sur New Repository et je vais l'appeler mva-film. Voilà. Il me dit qu'il n'existe pas, donc ça me convient très bien. Il est forcément public si on veut qu'il soit gratuit. On clique sur le bouton Create Repository. Je vais profiter de faire un copier-coller de ce que Git me propose ici. Je vais en avoir besoin dans WebMatrix dans quelques secondes. Je retourne dans WebMatrix. Pour faire un push ici, il faut que je configure un repository distant. Donc quand je clique sur la commande remote, je vais avoir accès à la possibilité de rajouter ce repository distant. Je vais l'appeler MVA Films. Et l'URL, je l'ai copié, je la colle ici, puis je clique sur le bouton Ajouter. Pour terminer, je clique sur le bouton OK. Voilà, tout a été récupéré sur le GitHub. Il ne nous reste plus qu'à retourner à nouveau sur le bouton Push. Et ici, je vais maintenant cliquer sur le repository distant que j'ai paramétré à l'instant. Et là, il est en train de faire le push sur GitHub. Et il m'indique ici, en partie inférieure, que le push est effectivement complet. Alors si on veut vérifier, tout simplement, on va ici sur notre GitHub, cliquer sur le repository que nous venons de créer, et on voit qu'en effet, il y a quelques minutes, l'ensemble a été ajouté sur notre repository GitHub. Voilà, notre site web est terminé. Nous avons réussi à créer des classes pour nos objets films. Nous avons créé une classe également qui nous a aidé dans la recherche d'un film lorsqu'on fait une recherche par type, et également lorsqu'on souhaite afficher le détail d'un film. La prochaine étape dans le prochain module, ce sera de commencer le déploiement de ce site web sur Azure. Et le module numéro 5 qui suit va vous permettre de le réaliser sur une machine virtuelle Linux. Je vous donne donc, comme d'habitude, rendez-vous pour le prochain module.